crois que la première chose que nous devons essayer de comprendre, c'est que Dieu, qui nous donne la grâce, comme une seconde naissance, le grand texte de Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus enseigne à Nicodème qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu et cette nouvelle naissance. Jésus est en face d'un théologien, d'un docteur de la loi. Et ce docteur de la loi est persuadé, parce qu'il est bien né, parce qu'il est de la race d'Abraham, que il est dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit avec force, nul, personne, s'il ne naît de l'esprit et de l'eau, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je crois qu'il faut tout le temps revenir à ce texte, parce qu'il est très très fort. Et il nous fait comprendre justement ce qu'est le point de départ de notre vie divine. Notre vie divine est une naissance. Je vous disais ce matin ce que saint Thomas affirmait, la grâce présuppose la nature. Et il faut ajouter tout de suite que la grâce nous est donnée comme une nouvelle nature, c'est-à-dire comme une source nouvelle de vie, qui est une vie divine. C'est très important, parce qu'autrement, on subordonne la grâce à la nature. Et c'est une des tendances qu'on voit aujourd'hui, qui est très ancienne du reste. Au point de vue théologique, on sait très bien qu'il y a toujours eu des querelles qui ont duré très longtemps. Il y a eu des querelles qui ont duré plus de 100 ans entre nos chers amis, les pères jésuites et les dominicains. C'est très curieux, les deux grandes familles dans l'Église, hein, au point de vue apostolique. Et bien pendant 100 ans, il y a eu une querelle qui a été très forte, parce que quand les théologiens de ce temps-là bataillaient, ils bataillaient avec violence. Je me souviens d'un de ces grands théologiens dominicains espagnols qui disait « J'aime mieux écrire en latin parce qu'on injurie mieux ». C'est assez significatif ça. Ça montre bien qu'il aimait mieux écrire latin, c'est vrai, on dit mieux les choses que lorsqu'on les dit en langue vulgaire. Il y a des choses qui s'usent en langue vulgaire, il y a des choses qui ne s'usent pas quand la langue est morte. Alors ça dit quelque chose de plus fort quelquefois. Et c'est vrai ça, c'est très 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 significatif. Eh bien, de fait, il y a ces deux grands tournants. J'ai dit ça, c'est parce que ça va nous aider à comprendre comment éduquer les jeunes, les enfants à la vie divine. Parce que nous ne pouvons pas les éduquer sans nous éduquer. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas beaucoup parler de l'éducation. Parce qu'on sait qu'en éduquant, on se remet en cause. Et c'est la manière, j'allais dire, la plus forte de se remettre en cause. Je vous parlais ce matin de l'amour, qu'il faut avoir cette auto-éducation dans l'ordre de l'amour. Et je dirais dans l'ordre de la grâce. On doit comprendre que l'on est à la vie divine chaque jour. Nous sommes à la fois des tout-petits, Jésus le dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas comme un tout petit. On n'aime pas beaucoup d'être des tout petits quand on arrive à une certaine maturité intellectuelle, quand on arrive à une certaine maturité humaine. C'est difficile que en nous cohabite quelqu'un qui sait se diriger dans l'ordre humain. Au bout, quand même, certaines expériences humaines, on arrive à une certaine sagesse humaine, à une certaine prudence humaine. Tant Tandis que dans l'ordre surnaturel, tant que nous restons sur la terre, c'est l'expression de saint Thomas, on reste dans un état embryonnaire. C'est pas drôle. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église. Je trouve ça très beau du reste. Notre vie divine, à cause de la foi, nous met dans un état embryonnaire. Et l'état embryonnaire, tout le monde sait, hein. Il faut la mère. Et quand une naissance un tout petit peu trop hâtive, il faut alors remplacer la mère par une couveuse électrique. Dans l'église, il y a des couveuses électriques, remplace l'église. Ce sont les sectes, hein, les couveuses électriques, vous voyez bien. Ce sont des couveuses électriques, oui, mais c'est pas du tout l'église. Hein. Alors, les couveuses électriques qui remplacent la mère, c'est très très bien, c'est très très bien, mais c'est toujours très mal non plus, c'est toujours très mal aussi, hein. C'est pas la mère. On n'arrivera jamais à remplacer la mère. On le voudrait bien, oh là là. Ce qu'on voudrait, au point de vue scientifique, au point de vue technique, remplacer la mère, oh, ce qu'on serait heureux, on n'arrivera pas, ça je vous parie. On n'arrivera jamais. Parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux comme alliance de Dieu avec la mère. Il y a une alliance souterraine. Il faudrait essayer de comprendre ça. Parce que je crois que dans la vie divine, nous naissons toujours à la vie divine, tant qu'on est sur la terre. Et la vraie naissance plénière, ce sera au ciel. Donc on est toujours dans un état embryonnaire. Et c'est très important de comprendre cela pour pouvoir éduquer les enfants à la vie divine. Et c'est pour ça que l'éducation à la vie divine des enfants nous oblige de nous remettre nous-mêmes en cause. Et c'est ça qu'on n'aime pas beaucoup. Je disais, moi, souvent à Fribourg, il faudrait que tous les théologiens, chaque année, préparent un enfant à la première communion. Alors, ils seraient un peu plus réalistes. Et ils seraient de meilleurs théologiens. Tous les ans, ils devraient préparer un enfant à la première communion. C'est tellement important, ça. Parce que c'est là où la théologie est vraiment ce qu'elle doit être. Parce qu'on comprend ce qu'est cet état embryonnaire de l'enfant dans l'ordre divin. Donc, je rappelle, parce que je crois que c'est très important, ça. Si on ne voit pas cela, on peut dire tout ce qu'on veut. On fera, au point de vue de l'éducation divine, une projection de l'ordre psychologique. On croit qu'on éveille à la vie divine comme on éveille à la vie humaine. Et on fait du psychologisme, du super psychologisme. C'est le très grand danger d'aujourd'hui. On projette, alors qu'il est dit explicitement dans l'écriture, hein, il suffit de savoir son écriture, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, aussi éloigné le ciel de la terre que les voies de Dieu que les nôtres. Et donc, éduquer un enfant à la vie divine, c'est quelque chose de très très grand. Les mères qui éduquent l'enfant dans la première éducation, parce que c'est surtout les mères, ça. Les pères, ils sont des théologiens. Mais ce sont les mères qui éduquent à la vie divine. Elles sont super théologiennes à ce point de vue-là. C'est du super théologisme. C'est elles avant tout, en premier lieu. Le père interviendra, mais pas trop vite. Pas trop vite. Je vais expliquer pour comprendre ça. Ça me semble tellement important, ça. Et ce n'est pas dit. C'est ça qui est terrible. C'est que les vérités les plus élémentaires aujourd'hui ne sont plus dites. Parce qu'on fait de la dentelle. Lisez les théologiens d'aujourd'hui. Hein. C'est incompréhensible, c'est de la dentelle. parce que c'est de la philosophie, superbe philosophie, et là on ne sait plus. Ils sont dans leurs problèmes, et ils croient que c'est ça la théologie, ce sont leurs problèmes. C'est pas ça du tout la théologie. La théologie, c'est se mettre à l'école de l'Esprit Saint. Et Saint-Esprit, il est simple. Soyez simples comme des colombes, et prudents comme des serpents. La prudence du serpent, c'est par rapport au monde. Et la simplicité de la colombe, c'est par rapport à ceux qui sont mus par l'Esprit Saint. C'est donc dans notre éducation personnelle de notre vie divine. Mais je sais, c'est ce qui est le plus difficile d'être simple comme des colombes, dans un monde comme le nôtre, qui est terriblement compliqué, qui est super compliqué. Ça c'est vrai, il est terriblement compliqué. Parce que nous n'avons plus une culture humaine. Nous avons une culture artificielle. Alors, c'est pour ça que c'est si compliqué. On a de la peine à revenir aux choses élémentaires et premières d'un réalisme tout simple. Je le vois avec mes étudiants. Ces jeunes qui entrent, qui se donnent au bon Dieu. Comme c'est difficile de retrouver quelque chose qui soit vrai dans le développement de l'intelligence. Tellement on respire quelque chose qui n'est plus vrai. Ça fait partie de la culture d'aujourd'hui, du moins soi-disant culture. C'est plus quelque chose qui prend l'homme dans ce qu'il a de premier. Vous voyez, on est fatigué, si vous voulez. C'est une culture d'intellectuel fatigué. Et alors, comme c'est une culture d'intellectuel fatigué, on est tous plongés là-dedans et on croit qu'il faut faire ça. Alors, je reprends. C'est deux choses que je crois très importantes à se rappeler. Que notre vie divine, c'est une naissance. Une naissance d'en haut, pas d'en bas. Une naissance d'en haut. Il faut naître de l'esprit et de l'eau. Alors l'eau, c'est quoi? Ça symbolise l'eau. Parce que c'est évident, il ne faut pas naître de l'esprit et de l'eau. Alors l'eau, on dit ordinairement le baptême. Mais non, attention, le baptême se sert de l'eau parce que le baptême veut nous faire comprendre que cette naissance à la vie divine implique notre bonne volonté. L'eau, c'est notre bonne volonté. C'est ça, l'eau. On ne peut pas naître à la vie divine sans notre bonne volonté. Et Dieu réclame à chaque jour notre bonne volonté. Chaque jour, nous disons au Seigneur, fiat. Nous sommes d'accord. Nous voulons aller toujours plus dans votre sens. C'est quelquefois pas commode, mais nous acceptons quand même. Et puis il y a la grâce. Et la grâce est première, naître de l'esprit et de l'eau. C'est une naissance qui se fait d'en haut, et non pas d'en bas. Notre naissance selon la chair et le sang s'est fait à la fois d'en haut et aussi d'en bas. C'est très curieux, puisque Dieu a créé notre âme. Ça, c'est une naissance d'en haut. Et notre corps a été formé par nos parents, avec tout l'atavisme que ça représente. Donc, la naissance selon la chair et le sang, c'est quelque chose de complexe. C'est la coopération de Dieu avec l'homme. Dieu qui coopère avec l'homme. Et lorsqu'il s'agit de l'éducation, cette coopération continue. Et lorsqu'il s'agit de l'éveil de la vie divine dans le cœur du tout petit enfant, la coopération continue avec un accent encore beaucoup plus fort sur justement cette naissance à la vie divine. C'est l'esprit et l'eau. Si on comprend cela, on voit que la grâce à son rythme propre. La grâce ne se développe pas selon le rythme de notre psychologie humaine. Elle assume notre psychologie humaine, mais elle ne se développe pas selon le rythme de notre psychologie humaine. C'est très important de comprendre ça. C'est pas très commode. Mais je crois que c'est très important. Parce que ça fait comprendre qu'il y a, dans la grâce que nous avons reçue de Dieu, dans notre grâce, et dans la grâce du tout petit enfant, il y a quelque chose qui est selon le rythme de l'Esprit Saint. Pour chacun, le grand éducateur, c'est l'Esprit Saint. Je ne peux pas être jaloux de ça. Le grand éducateur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui est directeur et rector. Les expressions de saint Thomas que j'aime tellement. L'Esprit Saint, c'est le directeur et le rector. C'est-à-dire, c'est lui qui dirige. C'est lui qui éduque. Par la grâce, on est directement sous la mouvance de l'Esprit Saint. Saint Paul nous le dit, ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui sont enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint. Et être mus par l'Esprit Saint, c'est accepter que notre cœur et que notre intelligence soient sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint se sert de nous. Il se sert des mamans, des mères, des pères, comme un instrument de Dieu. On est des instruments de Dieu quand il s'agit d'éduquer la vie divine. On n'est plus au sens propre des causes secondes qui faisons notre propre caprice ou notre propre école. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. L'Esprit Saint nous demande d'être intelligent, d'avoir beaucoup de générosité, parce qu'il faut beaucoup d'intelligence et beaucoup de générosité pour coopérer avec l'Esprit Saint. Mais on se met à l'école de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça qui est si important à comprendre. Et c'est pour ça que, quand vraiment on veut éveiller quelqu'un à la foi, à l'espérance et à l'amour, on doit accepter la béatitude des pauvres. On ne voit pas le résultat tout de suite. C'est tellement important d'accepter d'être des pauvres dans le domaine de l'éducation. Ici, la patience des saints. Je crois qu'il faudrait écrire ça en grosses lettres. Ici, la patience des mères et la patience des pères. Parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. Dans l'ordre psychologique, on veut voir le résultat tout de suite. Et si on ne voit pas le résultat tout de suite, on dit c'est raté. Pas du tout. Ça ne veut rien dire du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est coopérer à l'action de l'Esprit Saint. Et coopérer à l'action de l'Esprit Saint exige de nous d'être des pauvres. Comprenez bien ce que je veux dire, la béatitude des pauvres. C'est-à-dire ceux qui sont toujours en dépendance. C'est le propre du pauvre. C'est pour ça qu'on a tellement de peine d'être des pauvres. D'être en dépendance. Quand on a suffisamment d'argent, on peut avoir une autonomie. Quand on a peu d'argent et qu'on est pauvre, on est beaucoup plus dépendant. Dans l'ordre surnaturel, il faut accepter cette dépendance radicale à l'égard de l'Esprit Saint. Et de comprendre que ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre principale. Parce que nous éduquons des enfants de Dieu. C'est extraordinaire ça, éduquer des enfants de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes de pauvres pécheurs. Nous avons les mains sales. Et quelquefois, les petits-enfants ont des mains beaucoup plus propres. C'est vrai, ils ont leur cœur pur, alors que le nôtre est beaucoup moins pur. Parce que nous avons été abîmés par la vie, voulez-vous. Et nous le savons bien. Nous avons été abîmés par des tas de choses, alors que le tout petit-enfant, il est limpide. Dans sa grâce, dans sa psychologie, il porte des quantités de choses, mais dans sa grâce, il y a quelque chose d'une limpidité. Vous savez bien le geste d'Origène qui baisait la poitrine du petit qui venait d'être baptisé en disant le temple de Dieu. Et c'est vrai, c'est le temple de Dieu. Alors, il faut comprendre ça. On est en dépendance de l'Esprit Saint et on coopère avec l'Esprit Saint. C'est ce qu'il y a de si grand dans l'éducation chrétienne. L'Esprit Saint nous prend pour être ses coopérateurs, pour être ceux qui travaillent avec lui. Et l'Esprit Saint vous donne la grâce pour ça. Ça vous est donné avec le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage vous donne la grâce d'être des coopérateurs de l'Esprit Saint pour éduquer l'enfant, pour éduquer la première formation chrétienne du tout petit, qui est une formation souterraine. Je crois bien qu'on doit dire souterraine. J'aime de dire que le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de taupe. C'est comme ça que travaille le Saint-Esprit. C'est pas étonnant qu'il y ait eu les catacombes et que nous retrouvons aujourd'hui des catacombes spirituelles. Il y a eu des catacombes au point de départ qui étaient des catacombes visibles de l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, nous entrons dans des catacombes spirituelles. C'est-à-dire qu'on sent très bien que le monde d'aujourd'hui n'est plus chrétien dans sa dimension politique. Ça, je crois qu'il faudrait être aveugle pour dire que c'est encore chrétien dans sa dimension politique. Il y a combien de pays qui ont une politique en vue de maintenir la foi ? Comptez-les sur les doigts. On vit un monde qui se matérialise et à grand pas. Il y a encore des familles chrétiennes, grâce à Dieu, heureusement. Il y a encore des familles chrétiennes. Mais la famille chrétienne, tout de suite, elle est dans un monde qui n'est plus chrétien. Vous voyez la télévision qui pénètre dans la famille. C'est pas chrétien, la télévision. Et c'est tout de suite le monde et la culture d'aujourd'hui qui pénètre dans la famille. Et donc, à ce moment-là, fait que l'harmonie de la famille est détruite, que l'éducation devient impossible. Et le gosse, dès qu'il sort de la famille, dès qu'il va à l'école, il faut bien. On ne peut plus avoir des maîtres qui viennent à la maison pour éduquer, c'est impossible, ça ce serait une imagination, ça, on ne peut pas. Il ne faut pas pleurer sur les murs de Jérusalem, hein. Faut pas pleurer sur la famille du début du siècle. Faut pas pleurer là-dessus. C'est un manque de réalisme au point de vue de l'Esprit Saint. Il faut comprendre que nous sommes dans cette fin du XXe siècle, avec tout ce que ça comporte de grâce très étonnante, et en même temps de lutte. Plus la grâce surabonde, ou plus la lutte est forte, plus la grâce surabonde. Et plus la grâce surabonde, plus la lutte est forte. Et nous sommes en pleine bataille. Ça, je crois, celui qui dirait qu'il n'est pas en pleine bataille, ça prouve qu'il a des œillères. Parce que vraiment, on est en pleine bataille. Et la famille chrétienne est en pleine bataille. Elle n'a jamais été aussi fortement en bataille que maintenant. Alors, je comprends très bien que c'est pas commode. Il faut accepter que l'Esprit Saint travaille de taupe. Et les coopérateurs de l'Esprit Saint doivent accepter ce travail souterrain. Et je dis bien souterrain. On va essayer de comprendre ça. Parce que c'est peut-être la première chose qu'il faut comprendre. C'est peut-être ça qui permet de pouvoir coopérer avec l'Esprit Saint. Et de comprendre comment, en face de ce travail-là, on a des armes divines qui ne sont surtout pas les armes de l'adversaire. Et c'est peut-être ça aussi une des très grosses difficultés. Il y a des passages de l'Écriture de l'Ancien Testament qui sont extrêmement nets là-dessus. Quand vous voyez le petit David face à Goliath. Il y a des passages qu'il faut tout le temps lire, ça. Petit David face à Goliath. Hein. Le petit David qui est habitué à tuer le lion. Mais Goliath, c'est pire que le lion. Le petit David qui n'a comme arme que sa fronde. Il n'hésite pas alors qu'on lui donne les armes du roi Saül pour être capable d'affronter Goliath, ils n'hésitent pas de les rejeter après les avoir essayés. Parce qu'on lui a obligé de les essayer. De les rejeter, de partir au combat avec sa petite fronde. Et uniquement avec sa fronde. Et on sait le résultat. Et c'est comme ce petit pygmée que je rencontrais au Cameroun, ça m'a beaucoup frappé. Un petit pygmée à la taille des pygmées, quoi. Alors ce petit pygmée, il avait sa lance, qui avait 3 fois plus grande que lui. Il avait tué 18 éléphants. C'était le tueur d'éléphants de la petite tribu. Alors je dis, ah, c'est beau de tuer 18 éléphants de ta vie. Chose de grand. Il y avait quelqu'un qui traduisait, parce que je ne parlais pas leur langue. Alors il me dit, oui, mais apparemment, l'éléphant est beaucoup plus gros. Mais l'éléphant n'a pas l'intelligence, n'a pas l'esprit. Il a dit les deux, l'intelligence et l'esprit. J'ai trouvé ça admirable. Parce que ça fait comprendre le combat d'aujourd'hui, hein. Des petits pygmées, on est des petits pygmées face à la multitude. On a très peu de choses. La masse, ça impressionne. Le nombre, ça impressionne. Mais on a l'Esprit Saint avec nous. On a l'Esprit Saint avec nous. Le chrétien, le baptisé, celui qui a reçu le sacrement du mariage, il a l'Esprit Saint avec lui. On n'y compte pas assez. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'éducation chrétienne. Si on comprenait un tout petit peu, on verrait que c'est extraordinaire. Coopérer avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous remet ces petits. Vous savez, après la prière avec les enfants, il faudrait que les parents, ensemble, disent à l'Esprit Saint, est-ce qu'aujourd'hui on était de bons coopérateurs? Est-ce qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait? Et qu'en pauvre, on supplie l'Esprit Saint d'être là pour éclairer. Ne jamais oublier ça, c'est l'Esprit Saint qui doit nous éclairer. On ne l'invoque pas assez. On ne lui demande pas assez la lumière. C'est lui qui est le grand éducateur de la vie chrétienne. Et les parents doivent coopérer. Alors, je reviens sur ce travail souterrain. La grâce ne supprime pas la nature. Hein ? Revenons là-dessus. Parce qu'il faut toujours dire les deux. La grâce ne supprime pas la nature. La grâce n'est pas violente contre la nature. L'Esprit Saint ne violente jamais la nature. Mais l'Esprit Saint nous apprend à dépasser ce qui est le rythme de la nature. Il nous donne un rythme nouveau qui est le rythme même de Dieu, qui est le rythme même de la très sainte Trinité. Le rythme, son rythme d'amour. C'est une éducation d'amour. C'est pas premièrement une éducation de vertu. C'est une éducation d'amour. L'éducation humaine, elle est une éducation de vertu. Mais l'éducation de l'Esprit Saint, c'est une éducation d'amour. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous, hein. Parce qu'on a tellement de peine à aimer. Et à aimer vraiment. Alors l'Esprit Saint, c'est une éducation d'amour. Comme la grâce ne supprime pas la nature. Vous voyez bien dans la nature, hein, il y a les catacombes. Hein. Le petit enfant porté par sa mère, pendant tout le temps de la gestation, c'est les catacombes de notre vie humaine. Nous avons tous connu ça. Nous avons tous connu ce temps où nous avons été portés par notre mère. On ne s'en souvient plus beaucoup, du moins je ne crois pas. Certains psychologues voudraient, psychanalystes voudraient qu'on s'en souvienne pour revenir à la musique souterraine. Oui, c'est très très bien. Laissons-les. C'est un peu imaginatif. Je crains qu'ils soient un peu imaginatifs. Mais la vie humaine a commencé comme ça. Et ça, ça a été pensé par Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui a voulu ça. La sagesse de Dieu a voulu que, de fait, la procréation se réalise comme ça. Encore une fois, aujourd'hui, on voudrait que ces catacombes n'existe plus. Que ce temps souterrain puisse être visible. Et ça, si on pouvait l'inspecter, le voir, alors que, oui, on fait des coups de sonde, mais pas plus, hein, la continuité de ces catacombes, de ce temps souterrain, de ce sanctuaire sous terre, c'est quand même extraordinaire, ces églises souterraines, hein, moi ça me fait penser toujours à une mère qui porte son enfant. Ces églises sont creusées dans le roc, à même le roc, où il y a quelque chose de très particulier, hein, où les colonnes sont d'une seule taille, et c'est souterrain. Eh bien, la première vie humaine est souterraine, premier moment de la vie humaine est souterrain. Et il se développe dans cette communion si forte, si intime de la mère et de l'enfant, où il y a unité de vie tout en ayant une dualité de vie. Ils sont deux en une même chair, dans un même rythme de vie. Et ils sont deux pourtant. Et ils ont chacun leur rythme de vie. C'est quand même très extraordinaire ce que Dieu a pensé dans sa sagesse. Et puis après, il y a la naissance. Et après la naissance, ce que je vous disais ce matin, le tout petit est très dépendant, encore de sa mère et de son père. Plus dépendant que n'importe quel autre vivant. Et même quand il commencera à marcher, vive la dépendance, l'indépendance, hein, quand il commence à marcher. Il croit, mais ça mettra encore du temps. Mais parce que c'est cette réflexion de cette petite fille de 4 ans, ça m'a été certifié, parce que j'ai demandé au père et la mère, c'est vrai ce que vous dites. Petite fille de 4 ans, qui disait à sa mère et à son père, vite que je quitte ce milieu, il est insupportable. Elle disait ça de sa famille, à 4 ans. Pas mal, hein, comme indépendance de notre siècle. Vite que je quitte ce milieu. Maintenant, c'est plus calme. Je vais demander 2 ans après si ça allait mieux. 6 ans, ça va mieux. Et l'indépendance farouche. Vous voyez, c'est très intéressant, ça. Moi, je prends le raisonnement inverse des psychologues. Ces réactions, ça prouve justement que le milieu, c'est vrai. C'est très vrai que le milieu est terriblement tenace. Vous avez été prisonnier de votre mère pendant toute la formation de votre corps. Ta gestation, nous avons tous été prisonniers de notre mère. Naturellement. Et puis après, première année, encore. Et après, encore. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Que Dieu ait voulu cela. Il y a une intention de Dieu pour ça. Et qu'aujourd'hui, sous une action d'indépendance, on voudrait supprimer ça. Ça fait penser, ça. Et ça doit nous faire penser. C'est quand même très extraordinaire que Dieu ait voulu cette interaction si forte de la mère et de l'enfant. Plus que du père. Vous voyez, le père est beaucoup plus indépendant. Parce qu'il devra faire autre chose. Et la mère est terriblement dépendante. Parce que si l'enfant est dépendant, la mère est dépendante. Hein. Ça, c'est sûr. Et que plus l'enfant est dépendant, plus la mère doit être présente. Et quand l'enfant commence à avoir un tout petit peu d'indépendance, la mère reprend un peu d'indépendance. Et c'est peut-être le père qui à ce moment-là intervient un peu plus. Alors, si la grâce ne supprime pas la nature, je commence à comprendre pourquoi le travail du Saint-Esprit est aussi souterrain. Et il faut accepter ça. Il faut accepter ça. C'est peut-être ce que la catéchèse moderne n'accepte plus. Parce que la catéchèse moderne, elle se fait plus selon la psychologie d'aujourd'hui et selon le point de vue du progrès scientifique. Et on oublie ce point de vue souterrain, premier, où il faut une confiance totale à l'action de Dieu. Mais c'est comme celui qui mettait un grain en terre et qui voudrait tous les jours voir si ça pousse. Tous les gosses font ça. Quand ils ont mis un grain en terre, ils veulent tous les jours voir si ça pousse. Et quelquefois, pas les gosses. Ils voudraient voir si ça pousse. Et on leur dit, surtout ne faites pas ça, parce que en faisant ça, vous empêchez que ça pousse. Vous retardez. Il faut faire confiance à la graine. Il faut faire confiance à la vie. Eh bien, je crois que le premier grand principe de l'éducation chrétienne, dans l'éveil à la foi, c'est faire cette confiance totale à l'action de l'Esprit-Saint. L'enfant a reçu la grâce et il y a une action souterraine qui se fait. Au-delà de tout ce qu'on peut voir, au-delà de tout ce qu'on peut constater. Mais cette action souterraine réclame le concours de la mère. L'Esprit-Saint le veut. L'Esprit-Saint a besoin des mères. Ça fait partie du mystère de l'Esprit-Saint. La preuve, c'est qu'il s'est allié avec Marie d'une façon si étonnante, d'une façon si forte. Et ça nous est révélé, hein, vous savez bien. Le père Kolb, le père Maximilien Kolb, et avant lui, le père, le saint, Louis-Marie Grignon de Montfort, ces deux grands saints de la Vierge Marie, qui sont les maîtres de notre pape d'aujourd'hui. Parce que notre pape d'aujourd'hui continue. C'est très curieux ça, et ça c'est tout à fait caractéristique de la théologie de notre monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il proclame ? L'alliance de Marie et de l'Esprit-Saint. L'alliance de Marie et de l'Esprit-Saint, d'une façon telle qu'ils vont jusqu'à dire que l'Esprit-Saint, tout ce qu'il le fait, il le fait par Marie. Et c'est pour ça qu'on proclame Marie, mère de toute grâce. Parce que tout ce que fait l'Esprit-Saint, il le fait à travers Marie. Il le fait en se servant de Marie. L'Esprit-Saint se sert d'elle d'une manière telle qu'on a l'impression qu'il ne veut jamais agir sans elle. Transposé, l'Esprit-Saint ne veut agir sur le cœur du tout petit enfant qu'à travers sa mère. Hein, voyez la responsabilité. Voyez le contrat. L'alliance qui s'est faite. Et ceci, c'est pour nous. Puisque cette affirmation, elle est relativement récente dans l'Église. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Un merveilleux Français. Hein ? Et vous savez bien. C'est quelqu'un qui avait une foi prodigieuse. Saint Maximilien Kolb, il avait une foi prodigieuse dans la charité fraternelle. Et notre pape, je prends ces trois, il y a une continuité là. Et on voit bien que c'est ça, la grande lumière de l'année mariale. L'année mariale, c'est l'année pour les mères de famille. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Pour l'éducation de la foi. C'est pas pour rien que cette session est sur l'éducation de la foi dans l'année mariale. Pour qu'on comprenne, justement, que c'est Marie qui coopère tout le temps avec l'Esprit-Saint et qui ne cesse de coopérer avec l'Esprit-Saint. Et si Marie coopère toujours avec l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint veut la coopération des mères. Si on comprenait ça, on aurait une attitude de vigilance, une attitude de lucidité dans la foi, beaucoup plus grande. Parce qu'on comprendrait ce que l'Esprit-Saint réclame de nous. Vous voyez, quand je me dis les mères, je n'exclus pas les pères, hein, comprenez bien. Parce que, mais c'est quand même, hein, c'est pas l'alliance du Saint-Esprit de Saint-Joseph, je regrette. C'est l'alliance du Saint-Esprit et de Marie. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit aime beaucoup plus la femme que l'homme. Je crois que la femme est plus docile au Saint-Esprit. Plus facilement docile. Quand un homme est docile, c'est merveilleux, parce que c'est quand même trois hommes qui ont proclamé ça. Hein, Saint Louis-Marie de Montfort, Saint Maximilien et le pape. Ben, c'est quand même trois hommes. Il en fallait trois pour proclamer cette docilité extraordinaire de la femme à l'égard de l'Esprit Saint. Et je dis bien de la femme, Marie. Et à travers cette femme, toutes les autres mères qui ont compris leur rôle particulier de mère chrétienne, de mère liée à l'Esprit Saint. Je voudrais qu'on comprenne ça, vous voyez, parce que c'est ça la sainteté du laïcat dans ce qu'il a de premier. Je ne sais pas si on l'a dit au synode, mais je le complète, hein, j'ai le droit. En théologie, on a le droit de compléter. Parce qu'à Rome, ils ne peuvent pas tout dire. Il vaut mieux que ça parte de la base. Alors, il faut comprendre que la sainteté du laïcat, elle commence avec une mère. C'est Marie. Puis après, c'est Joseph. Alors, ils étaient très unis, donc pas de jalousie entre eux. Un père ne peut jamais être jaloux de sa mère, ne peut jamais être jaloux de son épouse en tant que mère. Au contraire, il est très heureux que son épouse soit parfaitement mère. Et mère, dans cet ordre divin d'éduquer la foi. Donc, on va essayer de comprendre ça, parce que je crois que ça c'est très important. C'est une lumière qui nous est donnée pour nous aujourd'hui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, comme la communauté n'est plus chrétienne, il faut que la famille soit doublement chrétienne. Au Moyen-Âge, les familles étaient portées. Vous savez, quand on avait un Saint-Louis à la place d'un Mitran, ben, c'était différent, voulez-vous. C'est pas la même chose que voulez-vous. On était protégés par Saint-Louis. Je n'ai rien contre lui, vous comprenez bien, mais il est ce qu'il est. Tandis que Saint-Louis, lui aussi, était ce qu'il était. Il était sous la souplesse de l'Esprit Saint. Et il y avait un aspect communautaire qui se tenait. Et la famille était portée par cela. Aujourd'hui, la famille n'est plus du tout portée. Plus du tout. Au contraire, elle est complètement, constamment agressée. Et donc, il faut qu'elle soit beaucoup plus forte. Et pour qu'elle soit plus forte, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne peut pas prendre les armes de l'ennemi. On est battu d'avance. C'est de revenir à la source. C'est revenir à la source, et revenir à la source, c'est revenir à la première des mères. C'est-à-dire à Marie et à l'Esprit Saint, et comprendre que c'est là où on puise la force. C'est Marie qui doit fortifier le cœur des mères aujourd'hui, parce qu'elle est la mère de toutes les mères, chrétiennes qui veulent éduquer leurs enfants. Donc, comprenez que si, au point de vue naturel, tout commence d'une manière souterraine, ça on ne peut pas le nier, comme la grâce ne supprime pas la nature, il y a quelque chose d'analogue, quelque chose de semblable dans l'ordre surnaturel. Et dans l'ordre surnaturel, on retrouve quelque chose de semblable. On retrouve un travail souterrain de la grâce. Et c'est vrai ça. Et ce travail souterrain est confié à la famille, pas au curé de paroisse. Il est confié à la famille. Et dans la famille, il est confié à la mère. C'est l'Esprit Saint qui se sert de la mère pour qu'elle soit celle qui aide l'Esprit Saint à ce travail souterrain. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que l'Esprit Saint réclame d'une mère pour ce travail souterrain? C'est quand même très important. Qu'est-ce que Dieu réclame d'une mère pour le travail souterrain d'une mère qui porte son enfant? On sait très bien ce que l'Esprit Saint et ce que le Père réclame d'une mère quand elle porte son enfant. Ça réclame une très grande générosité. Ça réclame une très grande générosité. Ça réclame d'être mobilisé par l'enfant. Ce qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. Vous, oui, parce que vous avez encore le sens de la maternité, mais quand vous regardez autour de vous, vous voyez bien ça. Une mère, elle est mobilisée par son enfant, et elle l'accepte de l'être. Et elle est même joyeuse de l'être. De temps en temps, c'est peut-être un peu lourd, mais elle est joyeuse de l'être. Parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle fait quelque chose de très grand. Ce que Jésus dit, hein, dans l'Évangile. La femme qui enfante, et la femme qui enfante, oui, il peut y avoir des souffrances, mais quand l'enfant est né, c'est la joie d'avoir donné au monde un enfant, un nouveau fils, une nouvelle fille. Alors il y a une joie prodigieuse, il y a un éclatement de joie. Ça c'est très très fort, hein. Et c'est Jésus qui dit ça pour nous faire comprendre justement ce qu'il y a de si merveilleux et de si grand dans ce travail souterrain que seule la mère connaît vraiment. Les autres, ils regardent ça de loin, quelquefois de près, mais vous, ils regardent ça de loin. C'est la mère qui porte. Et à la naissance, et après la naissance, les premiers moments, du moins la première année, ou même la seconde année, c'est encore la mère. Qu'est-ce que Dieu demande là? Il demande cette très grande générosité. Je crois avant tout. Être source de vie, ça réclame une très grande générosité et un très grand don de soi. Parce que s'il n'y a pas ce don de soi, quelque chose qui ne se fait pas. Et si on n'est pas une source, si on n'est qu'un robinet, hein, ça va pas. Tant d'heures, ça coule, et puis après on arrête. La source, ça coule tout le temps. C'est le propre de la source. Et ça se donne généreusement. Tandis que quand c'est canalisé, c'est autre chose. La source, elle est généreuse. Et la mère est source de vie, dans le sens très très fort. Et donc tout elle-même est donnée. Elle est entièrement donnée. Et c'est Dieu qui a voulu ça comme cela, dans sa sagesse divine. Alors vous comprenez, si je transpose maintenant, quelle est l'obligation, le mot n'est pas tout à fait juste, ce que l'Esprit Saint réclame d'une mère chrétienne auprès de son petit, auprès de son tout petit, quand il a été baptisé. L'Esprit Saint, déjà, avant le baptême, parce que l'éducation chrétienne commence avant le baptême. Il faut que la mère ait le désir du baptême pour l'enfant. C'est très important, ça. Et donc, ça commence avant le baptême, avant la naissance. D'abord, parce que si jamais il y a un accident et que le petit meurt, le baptême de la mère, c'est le baptême de désir pour l'enfant. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et que la mère est responsable de son enfant, non seulement au point de vue humain, mais même au point de vue divin. Tout de suite, dès la conception, elle doit l'offrir. Et elle l'offre à Dieu avec joie. Il y a une coopération qui se fait à ce moment-là. Et une coopération qui reste souterraine, voyez, au-delà des sacrements. C'est ça qui est merveilleux. Marie est au-delà des sacrements. Et il y a un travail chrétien souterrain qui est au-delà des sacrements. Où la mère offre son tout petit enfant. Elle le porte, elle est seule responsable avec Dieu de la vie de ce tout petit. Personne d'autre, elle est seule. Et elle sait qu'elle est seule. Alors elle l'offre. Elle le porte en priant. Elle le porte en l'offrant. Elle le porte en adorant pour lui. Et l'enfant est au rythme de sa mère. Et donc si la mère le porte de cette manière, il y a quelque chose, vous voyez, qui est plus profond que les sacrements, qui est ce désir du baptême que la mère a pour son tout petit. C'est la première préparation, ça. Évidemment, on n'aura aucun effet visible. Tout commence dans dans une espérance de pauvre, dans une foi souterraine. Et la grâce que la mère a, elle la transmet à son enfant. Vous voyez, elle la transmet d'une certaine manière. Si l'enfant meurt avant terme et qu'on ne peut pas être baptisé, la mère a transmis instrumentalement sa grâce à l'enfant. J'en suis sûr. Baptême de désir. Alors instrument d'une certaine manière, comme une mère peut être instrument. Mais après le baptême, alors là, on peut dire que c'est à ce moment-là que proprement doit commencer l'éveil de la foi. Après le baptême, c'est encore la mère qui doit vivre à l'unisson de la grâce de son enfant, en comprenant que ce tout petit est encore tellement dépendant d'elle, dans l'ordre naturel, et donc dans l'ordre surnaturel, puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais suppose la nature. Et donc, il y a une action qui demeure encore souterraine à ce moment-là. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que notre vie chrétienne commence d'une manière souterraine et que tant qu'on est sur la terre, on est dans un état embryonnaire. Et l'état embryonnaire du tout petit, de la grâce du tout petit enfant qui a reçu le baptême fait que c'est la mère qui a demandé le baptême. La mère et le père. Puisque vous savez bien qu'on ne peut pas baptiser un enfant si la mère et le père ne le demandent pas. Et la grand-mère n'a pas le droit de le baptiser. Hein. Parce que l'autre jour, comme ça m'est arrivé, une grand-mère qui m'a dit « Ma fille est insupportable, elle ne veut pas baptiser ses enfants. » Alors j'ai baptisé d'une façon cachée, indépendamment qu'elle le sache. Je n'ai pas le droit de faire ça. Avec ça, j'ai pas le droit. Je suis sa grand-mère. Vous êtes sa grand-mère, justement. Laissez passer votre fille devant. Ou votre fils devant. Elle était toute fière. Mais je lui ai dit « Non, elle n'a pas le droit de faire ça. » Vous l'avez fait avec votre générosité de grand-mère, vous n'avez pas le droit. C'est pas les grand-mères qui demandent de baptiser les enfants. Ah, la grand-mère peut agir, hein. Peut agir sur sa fille et sur son gendre, elle peut agir, mais c'est pas la mère qui demande. C'est pas la grand-mère, c'est les parents. Quand les parents demandent le baptême, ils se portent garants. En face de Dieu, en face de l'Esprit-Saint. De porter le tout petit. Et de porter sa vie divine, et de créer autour de ce petit un climat chrétien. Et il faut créer un climat chrétien. Il se porte garant de ça. Et comme le tout petit est très influençable en fonction de son milieu, et ça tous les psychologues le reconnaissent et le disent, il faut que la mère soit très vigilante, la mère et le père, soit très vigilant pour créer autour de ce petit enfant qui ne parle pas encore, mais qui reçoit l'influence du milieu, bien plus qu'on ne le pense. Il faut que la mère crée autour de cet enfant un climat chrétien. Alors qu'est-ce que c'est créer ce climat chrétien pour coopérer avec l'Esprit-Saint ? Il faut que la mère prie auprès de lui. Ça me semble absolument capital. Que la mère prie auprès de lui. Ils disent pas du tout, il comprend rien, donc c'est pas la peine. Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Il faut qu'elle crée autour de ce petit un climat chrétien. Si l'enfant est déjà dans une famille ou est déjà d'autres enfants, mais que l'enfant, dans la mesure où c'est possible, puisse assister à la prière familiale. Même tout petit, ça n'a pas d'importance. Il reçoit beaucoup plus qu'on ne pense. Parce que c'est l'action de l'Esprit-Saint qui est une action souterraine. Et il y a cette action souterraine de l'Esprit-Saint qui permet de cette manière que l'enfant soit réceptif. Je ne sais pas à quoi, Intellectuellement, je ne peux pas préciser. Mais je sais, par l'amour, qu'est-ce que c'est que créer un climat qui permet une respiration profonde de vie chrétienne. Au-delà de la conscience. Notre vie chrétienne est au-delà de la conscience psychologique. Elle est beaucoup plus profonde, puisqu'elle est au rythme même de la très sainte Trinité. Il y a donc quelque chose que nous devons respecter. Et devoir respecter ça, c'est justement comprendre qu'on est là des témoins de l'Esprit Saint. Je ne veux pas dépasser le temps, parce qu'au bout de trois quarts d'heure, on est fatigué. Alors je continuerai tout à l'heure. Réfléchissez-y, et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notez-les, et mettez ça sur un papier, et puis vous me le donnez. Parce que je voudrais qu'on puisse vraiment entrer dans ce qu'il y a de si grand et qu'on oublie trop. On l'affirme tout le temps par rapport à la Très Sainte Vierge, on ne voit pas les répercussions sur la mer, sur toutes les mers. Et on ne voit pas les répercussions au point de vue du foyer. Créer pour le tout petit enfant, s'il est le premier, s'il est le second, le troisième, on le fait entrer dans un climat chrétien. Un climat chrétien d'amour. Un climat chrétien de prière. Un climat chrétien de joie chrétienne. Il faut créer pour l'enfant une joie chrétienne. Qu'il entende la louange de Dieu. Je me souviens, c'était un grand japonais extraordinaire. Je vous raconterai ça tout à l'heure, parce que maintenant ça va retarder trop longtemps.